Chers frères et sœurs, peut-être certains d'entre vous sont-ils soucieux de se demander ce que sera la liturgie du futur, à quoi elle ressemblera. Eh bien, ça tombe bien, puisque dans les lectures de ce dimanche et dans la fête de ce jour, pour la fête du Christ roi de l'univers, nous faisons mémoire non pas d'un mystère passé, comme habituellement dans la liturgie, mais d'un mystère qui est à venir, c'est-à-dire la venue glorieuse du Christ dans la gloire, avec les anges, avec la bienheureuse Vierge Marie et avec tous les saints. Nous finissons donc l'année liturgique sur ce grand mystère qui ouvre nos yeux sur les réalités à venir, les réalités du ciel, sur notre destinée éternelle, notre vocation à tous à vivre avec la Trinité Sainte en sa présence. Évidemment, ce mystère à venir de la parousie est celui de la résurrection, résurrection des vivants et des morts, résurrection des bons et des méchants, qui précédera le jugement dernier, au cours duquel le Seigneur enverra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche, et donc où il instaurera définitivement le règne de Dieu sur sa création, qui reviendra ainsi à la soumission originelle au Seigneur. Ce mystère, il nous faut le désirer, car la liturgie nous y invite. Dans l'anamnèse, aujourd'hui, nous chanterons « Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. » Nous sommes invités donc à désirer cette venue glorieuse, à désirer cette vie éternelle. Et pour la désirer, il nous faut éviter de considérer cette terre et cette vie comme un paradis où nous sommes entièrement comblés. Non, car nous cheminons dans la foi et l'obscurité. Et nous sommes invités à la claire vision. Ce dimanche est aussi, évidemment, le dernier dimanche de l'année liturgique. Et c'est pour nous tous l'occasion de rendre grâce pour ce que le Seigneur a fait. Vous savez, comme moi, l'année liturgique est un cycle qui nous fait reproduire chaque année tous les mystères du Christ de telle manière qu'ils passent dans notre vie. Effectivement, c'est comme une spirale, un cercle qui monte, qui monte, qui monte, si bien que chaque année, depuis notre naissance, depuis notre baptême, eh bien, nous nous conformons davantage au Christ. Ne cessons pas d'espérer que le cœur sacré de Jésus soit un jour notre cœur, car tel est son désir, rien de moins, et nous ne le réaliserons pas si nous cessons de l'espérer. Le cœur de Jésus veut battre dans notre cœur. Alors aujourd'hui, à partir de l'Évangile notamment, je voudrais contempler avec vous le Christ comme un roi singulier, un roi couronné d'épines, et dans un deuxième temps, considérer le Christ qui nous juge en tant qu'il est le témoin de la vérité. Le Christ est un roi singulier, un roi couronné d'épines. Dans l'Évangile, pourtant, on a pu prendre Jésus pour un roi humain, tout humain. Rappelez-vous, au moment de Noël, Hérode voulait détruire et tuer tous les petits enfants pour tuer Jésus, parce qu'il pensait que Jésus lui ferait concurrence. Dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus multiplie les pains. Il donne du pain à la foule, et puisqu'il donne du pain, la foule veut faire de lui son roi. Mais Jésus est venu nous porter bien plus que du pain. Enfin, l'évangéliste Jean nous révèle que le Christ, en réalité, est instauré dans son règne, dans la puissance de son règne, au moment où il siège sur la croix. C'est sur la croix que Jésus paraît en vérité comme le roi de gloire. Il veut être roi, bien sûr, mais divinement. Qui a déjà vu un roi aussi singulier, aussi pur de toute mondanité, de toute prétention au pouvoir? Qui a vu un roi descendre de son trône pour visiter des prisonniers et faire d'eux des rois? Qui a vu un roi laver les pieds de ses serviteurs? Qui a vu un roi mourir pour ses sujets? Qui a vu un roi partager son trône avec ses sujets qu'il fait en vérité roi? Au jour de notre baptême, nous avons été consacrés par l'Esprit Saint et nous avons été consacrés aussi roi. Jésus nous révèle donc, dans sa manière si particulière de régner, qu'il est un roi en opposition radicale avec notre mondanité, notre conception toute humaine de ce qu'est un roi. La mondanité, c'est la tentation diabolique par excellence de celui qui veut nous enfermer dans une vie toute terrestre. Nous avons entendu les catéchumènes au début de cette liturgie qui demandaient la foi et ce qu'elle promet, la vie éternelle, par opposition donc à la mondanité qui veut nous enfermer dans cette vie terrestre. Le Christ, lui, nous ouvre à une destinée éternelle. Rien d'étonnant, car nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, et ainsi, nous avons soif de la communion même avec Dieu. Nous avons soif de vivre en communion avec la Trinité Sainte. Et rien, rien du tout, ne peut nous combler sinon cette communion avec Dieu. Jésus nous révèle donc une royauté purifiée de tout carcan mondain. Alors nous pouvons demander en cette Eucharistie la grâce, eh bien, de chérir non pas une royauté fondée sur la puissance, fondée sur le pouvoir, fondée sur la force, mais une royauté fondée sur l'amour, car cette seule royauté ne passe pas. Cette seule royauté, eh bien, s'étend bien au-delà des limites de notre cœur et peut le combler. Un auteur disait « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu » et saint Augustin disait « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Deuxièmement, le Christ nous juge en nous manifestant la vérité, car il est le témoin de la vérité. Dans sa rencontre avec Pilate, cela est très frappant. Pilate prétend juger Jésus. En réalité, c'est Jésus qui juge Pilate. « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus l'interroge. « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Comme si Jésus doutait du fait que Pilate parle par lui-même, qu'il soit convaincu de ce qu'il dit. Et à nous aussi, le Seigneur nous dit « Dis-tu que je suis roi de toi-même, ou le crois-tu vraiment ? Crois-tu vraiment que je suis ton roi ? Crois-tu vraiment que je veux régner sur toi, non pour t'écraser, mais pour te libérer ?» Le Christ, dans l'Évangile, apparaît comme le juge et le sauveur. Dans l'Évangile, toutes les rencontres que Jésus fait sont en fait comme des jugements. Rappelez-vous, lorsqu'il rencontre ou qu'il évoque cette prière du publicain et du pharisien, eh bien Jésus manifeste la vérité de l'état des cœurs au-delà de ce qui est visible. Dieu juge non selon les apparences, il juge selon le cœur. La liturgie de ce jour insiste en plaçant devant nos yeux le Christ couronné d'épines, pour nous montrer que la croix est le lieu suprême du jugement du monde. Notre Dieu nous a visités, il a marché sur la terre et nous l'avons mis à mort. Telle est l'opposition radicale entre la sagesse de Dieu et la sagesse mondaine. La vérité de l'amour divin se confronte à la vérité du cœur humain blessé par le péché, trompé par le mensonge et la violence. Le jugement, il est encore actuel lorsque, dans la foi, nous adhérons au Christ ressuscité. Jésus, dès sa résurrection, a été instauré roi. Tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Mais nous, nous cheminons dans la foi. Et unis au Christ par la foi, l'espérance et la charité, eh bien, nous sommes véritablement en sa présence. Et le vrai jugement, pour nous, c'est de savoir si nous lui sommes unis ou si nous ne lui sommes pas unis. C'est pourquoi l'Église nous a toujours invités et fortement invités à vivre en état de grâce, à nous soucier avec une véritable inquiétude religieuse, eh bien de vivre en état de grâce, c'est-à-dire d'être dans l'amitié avec Dieu. Nous avons été baptisés, c'est vrai, mais cette vie du baptême est dynamique. Elle invite à marcher à la suite du Christ dans cet équilibre instable de la marche. Ou pour donner un autre exemple, lorsque nous faisons du vélo, si nous ne pédalons pas, nous tombons. Eh bien, c'est pareil pour notre vie baptismale. Alors, pour vivre en état de grâce, nous avons cette grâce inouïe de pouvoir anticiper le jugement en allant au sacrement de la réconciliation. Le curé d'Ars disait cela, c'est une grâce inouïe que de pouvoir anticiper le jugement en nous présentant en vérité devant Dieu, avec ce que nous avons fait de bien, ce que nous avons fait de mal, et nous tenir en vérité devant Dieu. Ainsi, nous pouvons recevoir une sentence de miséricorde et être libérés par Dieu qui ne nous enferme jamais dans le mal que nous avons fait. Lors du jugement dernier, comme nous dit le catéchisme de l'Église catholique, face au Christ qui est la vérité, sera définitivement mise en lumière la relation de chaque homme avec Dieu. Le jugement dernier révélera, jusque dans ses ultimes conséquences, ce que chacun aura fait de bien ou omis de faire durant sa vie terrestre. Je termine donc avec quelques petites recommandations pour laisser le Christ régner sur nous. Et je voudrais insister peut-être sur le fait des œuvres de charité. Il nous est bien dit ici ce que chacun aura fait de bien ou omis de faire durant sa vie terrestre. Nous ne sommes pas seulement invités à nous abstenir du mal, mais encore à faire le bien, à être un peuple ardent à faire le bien. Et le jugement, nous le connaissons, il se joue sur les œuvres de charité toutes simples du quotidien. Sainte Mère Teresa disait, avec un petit moyen mnémotechnique qui peut nous aider, « You did it to me ». C'est à moi que vous l'avez fait. Pour, eh bien, faire mémoire de ce que nous dit Jésus dans l'Évangile, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ainsi, tâchons par notre vie baptismale de vivre en état de grâce et de produire des œuvres de charité, là où nous sommes d'abord dans notre devoir d'État, mais encore sur les œuvres paroissiales si nous le pouvons. Il ne s'agit pas de se mettre en quatre. Donc nous avons les conférences de Saint-Vincent de Paul, nous avons le repas solidaire, nous avons les maisons ouvertes et bien sûr nous avons la créativité de notre charité qui pourra nous guider tout au long de notre vie. Laisser le Christ régner sur nous, c'est encore lui laisser une place dans notre famille. A-t-on un coin prière ? A-t-on dans notre prière le souci de le laisser régner sur nos décisions, sur nos projets, sur nos vocations ? Enfin, une fois que le Christ règne sur nous, ce qui est évidemment toujours à parfaire, nous pouvons tâcher d'instaurer son règne dans notre société, car nous pouvons déplorer la course du monde si nous ne nous y engageons pas, si nous ne nous orientons que selon des logiques de réussite matérielle, nous ne réussirons pas à instaurer le règne du Christ. Ainsi, le monde éducatif, le monde politique ont un cruel besoin de personnes désintéressées et véritablement formées pour porter des principes saints à la société et en plus de cela porter le nom du Christ à toutes les nations. Je finis enfin, après que nous ayons reçu hier le bienheureux Carlo Acutis avec les jeunes, sur une citation de ce jeune bienheureux qui sera canonisé le 27 avril. « Notre moi est comme un mur. Si nous ne l'abattons pas, nous empêchons Dieu d'entrer en nous et de nous inonder de sa grâce. » Prions, chers frères et sœurs, en cette Eucharistie, pour que le Christ vienne régner sur nous, sur notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, qu'il vienne régner sur notre vie et nos décisions. Ainsi, nous pourrons nous tenir debout au jour de sa venue et entrer dans la joie de notre Maître avec confiance et communier à sa vie pour l'éternité. Amen.